Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Alors,
ça va pour toi derrière ?
Ouais, bah c'est bon. Donc là, t'as mis tes bouteilles d'eau. La ceinture de sécurité, c'est comme sur un avion normal. T'en as une ici, une boucle à droite, et t'as une grande à ta gauche. Ensuite, s'il faut évacuer l'avion, il y a cette manette qui est en position ouverte. Là, elle sera fermée. Tu ouvres là et tu tires la poignée, il n'y a qu'une seule porte sur l'avion. D'accord ? Ça, c'est l'évacuation. Tu te souviens de ça ? Tchac. Et on est parti.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Raphaël Constant, Laure Allary.
Pour tout passionné de l'aéronautique, comme je suis passionné de l'aéronautique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir partir avec un avion, de traverser trois continents, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, on commémore quand même quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le centenaire de cette ligne, l'aéropostale. Et c'est par là qu'a débuté l'aviation, par des avions un peu archaïques à l'époque, par des pionniers qui ont su découvrir. Et on veut essayer, même si nos avions modernes, on n'a pas les mêmes sensations qu'eux, ils avaient, mais on veut aller commémorer, puis un petit peu voir, comprendre ce qu'ils ont vécu. Voilà.
Bonjour. Le 25 décembre 1918, un avion Samson 2A2 s'élance dans les airs depuis Toulouse vers l'impossible. 2h20 plus tard, son atterrissage réussi en Espagne va ouvrir l'un des plus grands chapitres de l'histoire de l'aviation, du courrier et des hommes. 100 ans après, ce vol inaugural de ce qu'on appellera l'aéropostale est entré dans la légende. Une légende pavée d'héroïsme, d'aventure et d'escales mythiques en compagnie de forçats des airs, parmi lesquels Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry. Des pilotes risquent tout, frôlant la mort, pour acheminer du courrier vers l'Afrique puis l'Amérique du Sud à bord d'antiques machines. 100 ans après, celle qu'on appelle tout simplement la ligne, privilège offert aux grands de ce monde, continue de faire rêver. Et cette année, dans le cadre du raid Latéco Air Aéropostale, initié en 2007 par Hervé Bérardi, 150 participants dans une cinquantaine d'avions sont partis dans le sillage de ces pionniers de Toulouse, dans le sud de la France, jusqu'à Dakar, au Sénégal. Raphaël Constant a embarqué avec eux et ensemble, on va tutoyer les nuages pour un grand voyage sur les routes du ciel et de la mémoire. Attachez vos ceintures, décollage imminent.
Là, je suis en train de charger l'avion en inspectant le centrage de l'avion, c'est-à-dire en ne mettant pas trop de poids à l'arrière pour que l'avion ensuite ne parte pas, ne soit pas trop centré arrière, mais bien équilibré. C'est pour ça que je répartis également quelques bagages à l'intérieur de la cabine. Voilà.
Qu'est-ce que vous pilotez comme avion ?
Alors, cet avion, c'est un Socata TB10. C'est un avion qui a des performances qui montent jusqu'à 120 nœuds à peu près, qui est agréable, confortable, avec une belle ergonomie. Il n'est peut-être pas très rapide, mais fort agréable pour ce genre de parcours que nous allons faire. Puisque nous allons partir d'ici depuis Toulouse-Francazal, mais ensuite Perpignan, Sabadell, pour ensuite traverser l'Espagne, Gibraltar, ensuite on va atteindre le Maroc, on va passer à Casablanca et ensuite on va descendre sur tout le Maroc, le Sahara occidental. Nous allons traverser la Mauritanie et aller jusqu'à Dakar, qui est un lieu chargé d'histoire quoi, pour l'aéronautique. Voilà.
Vous partez dans combien de temps ?
On décolle à 15h46.
La vague à laquelle on appartient, qui est la vague Charlie, on doit décoller 15h46, c'est le slot qui nous a été accordé par la tour ici de Francazal.
Donc les avions vont être préparés aujourd'hui, donc ça va être des vagues, donc on gère ça par vague parce qu'on est nombreux. On est 50 avions à aller jusqu'à Dakar et 60 jusqu'à Barcelone. Et là, on fait une sorte de tour technique de l'avion. Donc on vérifie les ailes, les ailerons, les volets, on vérifie le fuselage, on vérifie le niveau d'huile, on vérifie l'essence, on regarde toutes les trappes techniques, si elles sont bien fermées, si les vis ne dépassent pas, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'est peut-être un peu dévissée par les vibrations. Donc on regarde le trim de profondeur, on regarde si tout va bien, s'il fonctionne. été inversée.
C'est quoi le trim?
Le trim permet d'avoir une assiette donc de vol qui soit plus ou moins horizontale, ce qui va nous donner une aisance à maintenir le manche fluide. Voilà.
Bon, je vous laisse finir de préparer votre avion.
Merci.
Bon vol, Laurent.
Merci, au revoir.
Thierry, il y en a encore 8 là-bas. Hein. Ouais, il y en a 8. Ouais. C'est le Delta Papa qui vient de décoller. Donc, il y aura 5 minutes au moins, il faut attendre.
Attends moins 5 minutes, ok.
Ouais. Alors moi, je suis responsable de la mécanique et des opérations au sol. Voilà.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Là, je suis en train de gérer les départs. Je fais les séquences de mise en route et leur donne l'ordre de partir quand c'est le moment, quoi, exactement prévu. De façon à ce qu'on respecte un délai de 2 minutes pour pas que ça soit trop saturé à l'arrivée. Voilà. Et ça, c'est du bruit de radio.
Et vous êtes relié directement à la tour de contrôle, c'est ça?
Non, je ne suis pas relié à la tour de contrôle, je suis relié avec les avions. Après, eux, ils ont une autre fréquence pour appeler la tour de contrôle.
Donc c'est vous qui envoyez le signal pour que les avions...
Moi, je leur donne le signal au niveau du sol pour gérer les départs au niveau de l'organisation. Et après, c'est la tour qui régule les roulages et les départs.
Faire de Foch, ça fait un roulé.
Franck Azal du Fox Golf, Fox Mike Novembre, bonjour.
Fox Golf, Fox Mike Novembre, Franck Azal Info, bonjour.
Oui, bonjour madame, Fox Mike Novembre, Red Latico Air, prêt au roulage.
Monsieur Mike Novembre, le roulage à votre convenance pour le point d'attente. Piste 11, rappelé prêt au départ.
Donc on roule pour le point d'arrêt, piste 11, et on laissera passer devant nous le Juliette Tango pour un départ en patrouille à 30 secondes.
C'est bien pris.
D'un matin de printemps, ou bien dans l'air quand souffle la tempête, nos aviateurs qui bravent tous les temps, nous font au ciel français lever la tête, et nous voyons s'envoler tout là-haut, vaillants et forts et prêts pour la victoire de notre France, de nombreux héros, que nimbe l'auréole de la gloire. À la France donnons des ailes, ce sont tous un commun effort.
L'histoire d'aéropostale, c'est le prolongement d'une découverte, d'une invention du début du siècle dernier, qui était l'avion. Et l'homme a détourné l'utilisation de l'avion en 14-18 et l'a utilisé à des fins militaires, à des fins guerrières. Avant la guerre, c'était des gens fortunés ou des gens un peu casse-cou qui développaient l'aviation. La guerre en a fait un outil de combat. Et avant la fin de cette guerre de 14-18, plusieurs personnes ont imaginé qu'on pouvait faire autre chose que de porter des bombes ou des chasseurs et ont imaginé de l'utiliser pour porter des personnes ou du courrier.
Gérard Hardy, spécialiste de l'aéropostale et président de l'association Toulouse-Montaudran, Mémoire d'Avenir.
Dans notre région, il y avait un industriel qui s'appelle Pierre-Georges Latécoère qui avait eu cette même idée. Donc il a décidé d'utiliser les avions qu'il construisait sur Toulouse-Montaudran. Il a donc déposé une demande d'autorisation de transport aérien. Il a démarré par un premier vol de démonstration qui a eu lieu le 25 décembre 1918. Il a fait un Toulouse-Barcelone. Alors, ce n'était pas lui le pilote puisqu'il était myope. Et il était donc accompagné d'un pilote qui s'appelait René Cornemont. Barcelone, où il n'y avait pas de piste encore, donc il a dû se poser sur l'hippodrome. Ça a été une démonstration réussie pour un premier coup et l'histoire va nous montrer qu'après, l'idée de génie était bien basée et que ça va bien se développer. D'autres personnes avaient eu ces idées-là, donc Louis Breguet notamment, qui avait développé une ligne vers le nord. Enfin, plusieurs industriels avionneurs avaient décidé de créer leur propre ligne et c'était essentiellement dans l'Europe ou vers l'Est, donc au-dessus des terres, jamais au-dessus de la mer, au-dessus des terres, jusque dans nos colonies d'Asie, d'Extrême-Asie. Pierre-Georges Latécoère étant basé à Toulouse, il s'est dit c'est pas la peine que j'essaie de faire de la concurrence avec mes collègues du Nord. Moi, je suis aux portes du Sud et nous avons des intérêts dans le Sud, en Afrique et même en Amérique du Sud.
Et puisque c'était l'époque des colonies.
C'était à l'époque, oui, en pleine époque des colonies. D'ailleurs, pour faire sa démonstration, il a imaginé qu'il pouvait porter, en mars 19, il a imaginé rencontrer le maréchal Lyautey, qui était à l'époque simplement général, de lui porter le journal du jour où il est parti, et de porter un bouquet de violettes à la générale, parce que les violettes sont des fleurs qui, une fois coupées, ne tiennent pas longtemps. Donc il voulait faire la démonstration de la rapidité du moyen de transport. Et il a convaincu le général Lyautey qui, du coup, a donné son accord pour créer cette ligne sur l'Afrique, sur le Maroc.
Et donc, Pierre-Georges Latécoère, entouré de son ami aviateur Beppo Demassimi et de Didier Dora, qui sera son chef d'exploitation, imagine trois tronçons pour relier cette ligne. Toulouse-Casablanca, Casablanca-Dakar et Natal au Brésil jusqu'à Buenos Aires, en Argentine.
Le potentiel des moteurs était d'une cinquantaine d'heures. C'est-à-dire, au bout de 50 heures, ils étaient fatalement en panne. Et il fallait à peu près une cinquantaine d'heures pour arriver à Dakar. Donc c'était inimaginable de traverser l'océan et d'aller jusqu'à Santiago du Chili. Pour autant, Pierre-Georges Latécoère a dit c'est irréalisable, mais on va le faire.
Un avion, c'est une petite cabine, on n'a pas de clim, c'est pas pressurisé, donc ça chauffe très très vite. Alors tout ce qu'on peut faire pour se protéger du soleil, on a des pare-soleils qui sont à la taille des fenêtres et qui sont très efficaces. Ben, on arrive à gagner quelques degrés dans la cabine, on protège l'avion, donc c'est un peu de fatigue en moins. Voilà, donc on va s'installer à la cabine.
Je te suis. Alors qu'est-ce que tu pilotes, Thierry?
Alors l'avion que... pilote aujourd'hui, c'est un avion américain, marque Piper, un avion, on va dire, de voyage. C'est pas un avion d'école, c'est déjà un avion pour faire du voyage, car il est une motorisation de 200 chevaux avec un train rentrant et une hélice à pas variable, donc c'est pas forcément des avions qu'on utilise pour faire de l'écolage au début. Donc, comme tu vois, c'est un double commande. On a le manche pour commander l'avion, et puis voilà, quelques instruments nécessaires pour faire voler un avion. Je pense que tu veux savoir.
Alors,
à quoi
oui,
ça
je
sert.
Vois, je vois un tableau de bord assez compliqué.
Un instrument essentiel, c'est la vitesse. Hein. La vitesse, c'est la vie en aviation. Hein. Quand un avion n'a plus de vitesse, il ne vole plus. Quoi. Donc il y a un altimètre qui est gradé en pied. Un pied, c'est 30 cm. Ensuite, il faut savoir prendre un cap pour naviguer, prendre une route. Bon, on a une boussole, un compas, et puis on a des instruments qui nous permettent de conserver les caps, même en virage. Après, il y a des moyens de radionavigation par rapport à des balises qui sont au sol. On a des moyens de radiocommunication, on a des radios, il faut parler avec le sol, on a un espace aérien contrôlé, donc on a tout un tas de. On a plusieurs radios.
Et tout ça, c'est ton avion?
C'est mon avion, exactement. C'était ma crise des 40 ans. Donc, je suis passionné d'avion depuis que je suis tout petit. Ma mère ne sait pas dire quand j'ai regardé les avions la première fois. Donc, je suis peut-être né avec ça dans les gènes. Et puis voilà, j'ai passé ma licence dès que j'ai pu avoir l'argent de me payer de la licence, dès que j'ai commencé à travailler. Et puis après, ben, voler, voyager. Et puis je suis devenu instructeur il y a 10 ans. Quand j'ai rencontré Hervé sur le raid en 2015, il m'a dit « j'ai besoin de quelqu'un comme toi sur le raid ». Et voilà quoi, l'aventure du raid et moi a commencé. Le raid, c'est la fraternité, c'est ce groupe. Les liens qu'on crée, on garde des amis. Et la partie vol, c'est une petite chose. Alors c'est clair qu'on aime voler, hein. Faut aimer voler pour venir, mais... Le raid, c'est ce contact avec les gens et ce projet.
Même avec autant de monde, parce qu'à l'époque, ils voyageaient à un ou deux avions.
Alors c'est clair, hein, là, on n'a jamais été autant nombreux. On est près de 140, 150 personnes. Je fais toujours la blague, je dis on déplace un A320 tous les jours, sauf qu'on utilise 45 avions pour le faire. On n'arrive pas forcément à voir tout le monde et à connaître tout le monde, moi le premier.
Et pour toi, pourquoi 100 ans après le début de la ligne, on refait encore cette route?
Alors, je pense qu'on a le devoir de commémorer ça et de maintenir le sacrifice que ces gens ont fait. Il y a eu énormément de morts, il y a eu énormément de sacrifices de fait pour prouver que l'aviation, un avion, pouvait utiliser à autre fin que la guerre. Parce qu'il y avait la vision de dire qu'est-ce que cet avion, à quoi il peut servir. C'est des gens, c'est un peu technique, mais je veux dire, tout ce qu'on a aujourd'hui dans un avion, ben, c'est des gens qui, à la base, on dit, ben, on rentre dans un nuage, on est on perd nos repères extérieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder, quoi, pour récupérer? Donc là, ils ont réfléchi, il faut les instruments. Après, les avions se perdaient. Il est parti à telle heure, il devrait déjà arriver. Ils n'avaient rien pour communiquer. Ils ont développé des systèmes de radio. Il y avait des grosses turbulences. Les ceintures n'étaient pas assez solides. Ils ont eu des passagers, des pilotes qui ont été éjectés de l'avion à cause de la turbulence. Donc ils ont inventé la résistance des ceintures pour tenir les passagers dans les avions. Ça donne la frisson d'imaginer qu'un avion passe une turbulence ouvert et le pilote se fait éjecter. Quoi. C'est donc, quand on lit tout ça, on dit oh, ils ont tout inventé, ils sont passés par le sacrifice humain pour inventer tout ça et qu'aujourd'hui on vole avec des statistiques de mortalité en aviation qui est très très bas. Quoi.
Et Thierry, pour toi, qu'est-ce qui a tiré ces hommes il y a 100 ans dans le ciel à livrer du courrier? Est-ce que c'était la liberté qu'on ressent quand on est seul dans le ciel? Est-ce que c'était l'envie de voyager, d'aller ailleurs, de fuir la guerre justement, ou de prendre un peu de hauteur, ou tout ça mélangé peut-être?
Alors, il faut savoir que quand on est pilote et que d'un seul coup on se retrouve les ailes coupées, c'est très difficile. Et je pense que ces gens, ben, ils ont connu le vol et puis ils se disent, mais finalement, ok, on a fait la guerre, c'est pas forcément l'objectif de faire la guerre. Maintenant, je fais quoi? C'est quoi la suite, quoi? Et donc, ils se sont retrouvés à dire, et on le voit dans les écrits, je veux dire, Mermoz a quasiment été clochard à Paris, quoi. Je veux dire, il n'avait plus rien pour subsister. Lui, c'était volé, quoi. Il ne pouvait pas imaginer de faire autre chose, quoi. C'était hors de question de finir sa vie au sol. Et puis Mermoz disait, l'accident, ça serait de mourir dans un lit, quoi. Donc, on montre bien l'esprit qu'ils avaient, quoi.
Hôtel Québec, non, je décolle piste 04.
À la fin de la Grande Guerre, Jean Mermoz, célèbre aviateur de l'armée française et les autres, sont pour ainsi dire remisés au hangar. Tout comme les avions de Pierre-Georges Latécoère qui fournissaient jusque-là l'armée. Avant l'armistice, dans les halles de Montaudran à Toulouse, on assemblait jusqu'à 150 avions par mois, soit 5 engins par jour. Aujourd'hui, sur ce site historique, berceau de l'aviation française, il ne reste plus grand-chose des ateliers d'origine, surnommés jadis Royal Cambouis. Seul subsiste les immenses halles où un espace mémoriel doit prochainement ouvrir afin d'honorer l'envol des pionniers. Avant Aéropostale, le courrier mettait plus de 3 semaines pour faire Paris-Buenos Aires via Dakar. Avec les troupes de Dora et Latécoère, il mettra 1 semaine seulement au départ de Toulouse. Martine Laporte, historienne, et Jacques-Marie, ancien postier, sont tous les deux auteurs de livres sur l'Aéropostale.
Le courrier de Paris, de Marseille et de toute la France d'ailleurs, était transporté de nuit par un service des ambulants de la Poste. Et ce train de nuit qui partait donc de la gare d'Austerlitz, eh bien, on trouvait le courrier pour l'Afrique, l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. Ce courrier était mis en trié, bien sûr, pendant que le train parcourait son trajet de Paris à Toulouse. Et là, il y avait donc des postiers qui étaient dans ce wagon et qui faisaient des sacs postaux. Et ces sacs étaient repris à Montaudran. Le train arrivait vers 14h du matin et à 6h du matin, le courrier était chargé dans les avions qui partaient vers l'Afrique.
Et ensuite, il faut imaginer que les sacs de courrier étaient changés d'avion à chaque escale. Régulièrement, un pilote reprenait le relais, en fait.
Mais chaque pays avait un bureau de poste français. Il y avait un bureau de poste à Casablanca. Enfin, il y avait dans chaque pays, il y avait un bureau de poste. Donc, dès que les avions atterrissaient, les sacs de courrier étaient amenés à la poste et vice-versa. La poste amenait le courrier pour l'escale suivante.
Courrier France-Amérique. Parti de Toulouse à 5h45. Stop. Passé Alicante, 11h10.
Ils avaient une foi dans cette aventure. Je pense que le courrier avait une telle importance pour eux. Ils faisaient ça. Ils le savaient qu'ils le faisaient au détriment de leur vie, mais ils le faisaient. Et puis, ils se soutenaient les uns les autres. Il y avait cette émulation entre les pilotes. Il y avait en général une très bonne entente entre eux. Ben c'est ça, l'esprit de la ligne, c'était cette solidarité entre les pilotes, les mécaniciens, il ne faut pas oublier les mécaniciens, les radios, tous les personnels au sol. Et oui, on appelait ça l'esprit de la ligne. Et puis surtout, le courrier devait partir et arriver à l'heure. Il fallait faire le maximum pour que le courrier arrive à l'heure. Et c'est ce qu'avait été... enfin, c'est Didier Dora qui avait appelé ça la mystique du courrier.
Il faut que le courrier passe.
Il faut que le courrier passe. Le courrier doit passer.
Donc, je suis Jean-Didier Mousse. Je suis le petit-fils de Didier Dora. Didier Dora était un pilote durant la Grande Guerre. Et du fait de son amitié avec Beppo de Massimi, qui était son navigateur, il fut présenté par lui à Pierre-Georges Latécoère, qui le recruta d'abord comme pilote, et puis le nomma quelque temps plus tard chef d'aéroplace à Malaga, avant de le rappeler à Toulouse pour prendre la direction de l'exploitation de la ligne Latécoère, et donc le nommer de fait chef pilote de cette ligne. Mais il conservait quand même son âme de pilote, en ce sens que il était celui qui partait lorsque les autres avaient peur de partir. Lorsque, par exemple, il y avait des stratus, donc des nuages de très basse altitude, qui masquaient la navigation, qui empêchaient la navigation dans de bonnes conditions, c'était lui qui partait, qui donnait l'exemple à ses pilotes, c'est lui qui transportait le courrier. Et c'était pour ça qu'il était respecté. Et puis, il avait toujours un souci de sécurité à l'esprit pour ses pilotes et ses mécaniciens. Et c'est pour ça qu'il imposait aux nouveaux arrivants de faire un séjour prolongé dans les ateliers pour apprendre comment marcher un avion, comment le réparer, de manière à ce que, s'il se retrouvait seul en panne dans le désert, il soit capable de réparer eux-mêmes leur avion.
Si nous avons pu vaincre les grandes difficultés qui ont provoqué l'admiration plus tard du monde entier, c'est précisément parce que nous avons eu des hommes qui se valaient, qui se ressemblaient, et les mécaniciens ne déparent pas du tout les pilotes, au contraire, ils les complètent, et c'est avec une grande reconnaissance que l'un et l'autre se retrouvaient après l'exécution des voyages, et il y avait vraiment un esprit admirable d'entraide, de fraternité et de confiance réciproque. J'étais moi-même pris dans l'ambiance et je n'ai certainement aucun mérite d'auteur dans cette question. C'est tout simplement une manifestation d'un groupe de Français qui, lorsque on leur offre un idéal à servir et lorsqu'on leur permet de se dépasser eux-mêmes, se dévouent jusqu'au sacrifice total.
Mon père, en fait, était le ciment entre ces hommes, le lien entre les mécaniciens et les pilotes, un peu fou parce que très jeune, avec un état d'esprit de liberté, donc il était obligé d'avoir une carapace pour pouvoir les commander. À côté de ça, il y avait sa personnalité qui était très sensible. C'était un homme qui aimait cultiver ses roses, cultiver son jardin. Il racontait la ligne souvent sous la forme d'anecdotes. Jamais comme un exploit, c'était, il le disait souvent, un travail ordinaire. Il faisait son travail. Son exigence était qu'il fallait que l'avion parte et arrive à l'heure.
Beaucoup de pilotes disaient la même chose. C'est un travail comme un autre.
Oui, un travail comme un autre. Voilà, il fallait partir aux aurores, dans le froid de la nuit toulousaine, et puis accomplir son boulot, rien de plus. Mon grand-père et ma grand-mère habitaient rue du Sénéchal, derrière la place du Capitole, à proximité immédiate de l'hôtel du Grand Balcon, où logeaient les pilotes. Et mon grand-père allait passer régulièrement à cet hôtel. C'est d'ailleurs lui qui conseillait aux pilotes d'aller là. Et j'ai par exemple un enregistrement fait par mon grand-père où il raconte la naissance de l'amitié d'Antoine de Saint-Exupéry et d'Henri Guillaumet. Antoine de Saint-Exupéry venait d'arriver à la ligne. C'était quelqu'un qui était par nature extrêmement discret. C'était un homme cultivé, alors que Henri Guillaumet était un agriculteur. Rien au départ ne permettait d'imaginer qu'ils aient une telle amitié entre eux. Eh bien, un soir, Henri Guillaumet était en train d'expliquer à Antoine de Saint-Exupéry sur les cartes d'état-major, qui étaient les cartes dont se servaient les pilotes à l'époque, comment il fallait naviguer, en particulier en Espagne. Et mon grand-père dit dans cet extrait que c'est là qu'il a vu naître la plus belle amitié qu'il ait jamais connue.
Vous êtes ému ?
Oui. Oui, parce que c'est très symbolique de ce que ces gens faisaient et avaient comme affection les uns pour les autres.
J'allais être à mon tour, dès l'aube, responsable du courrier d'Afrique. Je me sentais mal préparé. Aussi, le cœur plein de ce mélange de timidité et d'orgueil, je m'en fus passer cette veillée d'armes chez mon camarade Guillaumet. Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là. Guillaumet ne m'enseignait pas l'Espagne, il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait ni d'hydrographie, ni de population, ni de cheptel. Il ne me parlait pas de Guadix, mais des trois orangers qui, près de Guadix, bordent un champ. « Méfie-toi d'eux, marque-les sur ta carte !» Et les trois orangers y tenaient désormais plus de place que la Sierra Nevada. Il ne me parlait pas de Lorca, mais d'une simple ferme près de Lorca, d'une ferme vivante, et de son fermier, et de sa fermière. Et ce couple prenait, perdu dans l'espace, à 1500 km de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leur montagne, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts, sous leurs étoiles, à porter secours à des hommes. Et peu à peu, l'Espagne de ma carte devenait, sous la lampe, un pays de contes de fées. Je balisais d'une croix les refuges et les pièges. Je balisais ce fermier, ses 30 moutons, ce ruisseau. Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligée les géographes.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux venir m'asseoir sous l'aile de ton avion avec toi ?
Ça va, ça s'est pas tardi.
Oh, on est pas mal à l'ombre là.
On est pas mal. C'est mieux les ailes hautes, ça laisse plus de place.
Je t'ai même pas demandé ton prénom.
Aloïs.
Aloïs. Qu'est-ce que t'es en train de lire ?
Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Je voulais le lire avant le raid et j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, j'en profite maintenant, dès qu'il y a un temps mort pour lire. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça, déjà, ça donne une énorme dimension historique au raid. Et on voit tout par ce par quoi ils sont passés, les épreuves, la non-fiabilité des moteurs, le risque qu'ils prennent, l'inconscience de... Ben, quand on dit audace, oui, l'inconscience de ce que ces hommes ont... Les risques qu'ils ont pris juste pour du courrier. Et après, Saint-Ex enveloppe tout ça d'une poésie avec des phrases qui sont juste magistrales. Je les relève au fur et à mesure que je lis.
Je vois que tu en as entouré certaines.
Il y en a pléthore. Et derrière, j'aime beaucoup certaines réflexions, par exemple sur le lien entre l'homme et l'avancée de la technologie. Et ben pour eux, à l'époque, c'était l'avion qui relie les hommes, qui était une invention qui transfigure l'humanité. Et ils parlent de l'impact et du retard générationnel qu'il y a sur cette invention. Et nous, aujourd'hui, on a d'autres révolutions technologiques. Et du coup, les réflexions sont complètement d'actualité. Et vraiment, c'est un livre passionnant. Et je pense que j'aurais dû le lire bien plus tôt. En fait, c'est une aventure humaine, humaine au sens d'une aventure de l'humanité, l'aviation. Et aujourd'hui, nous, on prend des tas de choses pour acquises et elles ne l'étaient vraiment pas il y a quelques temps.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent quand on traverse la ligne comme on le fait en ce moment ?
Un peu moins. Pour qu'on n'ait pas cette solitude, eux, ils partaient, que ce soit en hiver, en été, avec des températures extrêmes. Ils parlent justement de la mer de nuages comme un piège mortel et non plus un simple paysage. Aujourd'hui, non, c'est pas ce qu'on ressent. Ça. Quand ils parlent de la disparition de Mermoz, de la disparition de ses copains, on dit il n'est pas arrivé à, il n'est pas arrivé à Casablanca. Ah bon, il a fait demi-tour ? Non. Voilà, c'est la fin. Et tout le monde comprend dans ce nom qui tombe qu'il est mort et qu'il ne verra plus jamais son ami. Donc non, on n'est pas dans ce... Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, mais de lire là-dessus et de prendre conscience de ce qu'était l'aéronautique à l'époque, c'est très enrichissant.
C'était Leïla de Bachar Makhalife sur RFI.
Si loin, si proche, voyage sur RFI.
On est toujours sur les traces des pionniers de l'aéropostale en compagnie de drôles d'oiseaux férus d'aviation qui ont décidé de refaire, 100 ans après, le tracé de la mythique ligne postale aérienne française depuis Toulouse, direction Dakar. Après avoir survolé les Pyrénées, la Méditerranée, traversé l'Espagne et le détroit de Gibraltar, le tarmac de Toulouse est déjà loin, derrière nous. À Marrakech, au petit matin, les 50 avions du RAID et leur équipage sont prêts à partir pour une nouvelle escale. Et avec Raphaël Constant, parti sur le RAID, plus de 2000 km nous attendent encore.
Tu vois, on est là. On va partir donc de Marrakech. On va descendre sur Agadir. Agadir où il ne fait pas encore très très beau là pour le moment, contrairement au temps magnifique qu'on a ici. On va passer l'Atlas, le sud de l'Atlas, enfin l'ouest de l'Atlas plus exactement. Et on va rejoindre la côte, et là ça va être juste magnifique. Et on va descendre jusqu'à Tantan. Tantan qui est ici, on va refueler parce qu'on a un avion qui a pas assez d'autonomie pour aller directement à Cap Juby.
Cyril, il est à peu près 7h30 du matin. Tu viens d'ouvrir une carte, c'est quoi, une carte aérienne ?
Voilà, exactement. Alors au Maroc, on a des cartes très particulières puisqu'on a des cheminements obligatoires au Maroc. On ne peut pas se promener n'importe où au Maroc. Donc tu vois les tracés noirs sur la carte, eh ben, sont finalement les routes qu'il va falloir qu'on suive. Alors on retrouve sur ces routes, sur la carte, on va retrouver la route, le cap à suivre et la distance qu'on a entre les différents points. Qui sont des points de report, hein. Tu vas entendre le contrôleur qui va nous demander des estimés sur chacun des points de report puisque eux, ils n'ont pas de radar, hein, on est au sud du Maroc.
Et sur ta carte, on voit tous les reliefs, il y a des reliefs différents,
exactement,
il y en a des roses, rouges,
voilà,
jaunes,
tu vois la mer en bleu, assez simple, en vert, on va retrouver les zones d'oasis ou bien irriguées. Et puis plus ça monte, plus ça rougit. Voilà, donc du jaune, on va partir, on sera un peu dans le jaune au niveau de Marrakech, puis au passage de l'Atlas, tu vois là, ça rougit énormément, puisque là on va passer des montagnes assez importantes. Voilà, on va passer dans une petite vallée là qui est assez jolie. Alors malheureusement pour les besoins du trafic aérien, on va être obligé de monter. Donc, on sera pas dans les vallées en tant que tel, mais les paysages promettent d'être jolis. Donc Tarfaya c'est Cap Julie, et pour un pilote ça veut dire quelque chose, hein. Moi je suis un amoureux de Saint-Ex et du Petit Prince, donc tu vas voir quand on se pose à Cap Julie, on s'attend à voir le renard sortir de derrière les dunes.
Parce que c'est à Cap Julie que Antoine de Saint-Exupéry aurait eu l'idée du personnage du Petit Prince.
Voilà, c'est exactement ça.
Là où il était chef d'escale pendant 18 mois en 1927.
Exactement, voilà. Donc là, il y a encore, on va le sentir, quand on arrive à Cap Julie, on sent cette empreinte qui reste là. Et pour un pilote, c'est magique et impressionnant de se poser à Cap Julie. On sent que c'est pas fait pour faire de l'aviation légère. Voilà.
Moi, je vais aller au briefing. On va y aller ensemble, si tu veux.
Je te suis.
On fait attention sur les parkings, il y a beaucoup d'avions, il y a des hélices qui tournent, donc il faut faire attention.
Alors, Agadir passait. 4 kg brume, 4600. C'est du classique. La baie d'Agadir est rentrée par les entrées maritimes. Au-dessus, je suis sûr qu'on passe sans problème. On va être en top là-dessus, après on descend sur la mer. Ensuite, Tantan passe 4600 et 8 kg de visibilité. D'accord ? 8 kg, 4600, ça c'est bon, quoi. Ensuite, le point de sortie. Il n'est pas impossible que la tour préfère nous faire partir par le pont direction Agadir, qui est plus sud-ouest. Parce que ça va être plus rapide. Surtout si on décolle en 28, c'est virage à gauche, il est quasiment direction l'Atlas.
Donc là, ce qu'on attend, c'est on attend la séquence de notre vague. Donc on a découpé en fait les avions du raid. Il y a 50 avions cette année, donc ça fait quand même beaucoup d'avions. Donc on a découpé ça en 4 vagues. Et donc là, on est la première vague à partir ce matin. La vague, elle est constituée d'environ 10 avions avec un leader. On attend que le leader mette en route. Puis une fois que le leader met en route, tous les avions qui ont une séquence bien précise, avec un ordre bien précis, on connaît l'ordre des précédents, démarrent de toutes les 2 minutes. Comme ça, ça permet de séquencer les avions et d'avoir des avions à 2 minutes. Et on les a organisés de telle manière que les plus rapides par devant et les plus lents par derrière. Donc le mieux, c'est d'espacer les avions pour pas avoir de problématique de risque de collision ou de choses comme ça, parce qu'on est tous sur la même trajectoire et tous à la même altitude.
C'est la première fois que tu fais le raid, Cyril ?
Non, moi c'est la deuxième fois. J'ai fait ça l'année dernière en tant que participant. Et cette année, je le refais en tant qu'organisateur. Pour un pilote, ça veut dire quelque chose.
Bon, bah on embarque pour Cap Julie, alors, vers Saint-Exupéry.
On est parti pour Cap Julie.
La batterie est sur on, l'alternateur est sur off, la pompe électrique est sur on, le phare, l'anticol, les magnétos sont sur bof, la mixture est sur plein riche. Attention, mise en route. Alors là, je règle les radios qui vont nous permettre d'échanger avec la tour de contrôle.
Ready to go to Tarfaya.
Tango Kilo, autorise décollage, France 28, le vent est calme, après l'envoi changé 119.
Alors, Saline, on décolle piste 28 et avec 119,7 après l'envol. Vous pouvez me donner un dernier QNH, s'il vous plaît, monsieur ?
1018.
1018, merci beaucoup. Allez, on est parti, mon kiki. Allez, il y a des gaz.
Là, on est en train de survoler l'Atlas.
Voilà. Alors, tu vois, c'est magnifique le lever de soleil sur l'Atlas.
Vraiment.
Des ocres. Ça va de l'ocre du jaune en passant par l'ocre en allant vers le rouge. On voit quelques bleds accrochés dans les montagnes.
Voilà, c'est près du sol là.
On vole à environ 1000 pieds, c'est-à-dire à 300 mètres.
Oscar Whisky pour le Mach 9.
Et c'est beaucoup plus joli, on voit mieux les reliefs et on voit toutes les ombres se détachent.
À bord de l'avion de Cyril, dans la brume matinale qui vient caresser les reliefs de l'Atlas, les paysages en contrebas s'offrent à nous tel un tableau.
Bientôt, le désert, cette terre rendue possible par les aviateurs de l'aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry en tête. Saint-Ex a toujours su la chance qu'il avait d'être l'un des seuls à survoler le monde et à savoir en décrire la beauté. On attend l'escale comme une terre promise, écrivait-il. Et la nôtre, c'est Tarfaya, cité de sable et du bout du monde.
Ah bon, parce que j'ai fait un atterrissage, je crois que j'en ai jamais fait un aussi bon de ma vie. C'est ça.
On a bien venu à Tarfaya. On semble très fier.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça
va, comment tu vas?
Salam alaikum, Marianne.
Salam.
Voilà.
Moi, Hassan.
Hassan, c'est l'organisateur qui travaillait pour tracer la piste.
C'est magnifique, on sait que vous avez fait beaucoup de travail pour nous accueillir.
Nous sommes une association de les amis de Tarfaya qui accueille toujours le Raid de la Tecouère et aussi qu'il gérait le musée du Saint-Exupéry ici à Tarfaya.
C'est ça qu'on appelle l'étape mythique Tarfaya. Ah,
exactement,
c'est mythique. C'est tellement mythique que ça crée de l'émotion quand on arrive là.
Ouais.
Ici, c'est votre deuxième domicile.
Ici, et voilà, c'est gentil. Ouais. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.
Et surtout, on partage avec vous une grande histoire de Saint-Exupéry, le chevalier du XXe siècle.
Ah, oui, voilà.
C'est le trait d'union.
Toujours, on dit que le petit prince, il est né à Tarfaya.
C'est le trait d'union entre deux continents, en fait.
Et surtout que notre grand-parent qui est toujours raconte des belles choses de Saint-Exupéry.
Il y a la guerre qui va se poser.
C'est bon pour vous les gars, pour les maquillons, ouais,
bouge-toi le cul surtout, oui.
Dépêche-toi.
Parce que le problème, c'est qu'on en a 4 en vol là, en attente, et ça va être compliqué quand même.
Chez Mac Normand, tu peux te préparer pour la base main gauche 03.
Sur l'axe, sur le camp.
Je peux vous demander comment s'est passé votre vol ?
Ah bah super bien, on a une météo très bonne parce qu'il y avait un peu de brume mais dans des conditions tout à fait correctes, on voyait très bien la côte, on n'a pas rencontré de problème majeur et puis bah, l'atterrissage ici, on avait de la chance là, nous on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde devant nous, vraiment super. Je tire mon chapeau à Hervé et à toute l'équipe là parce que c'est une sacrée logistique à mettre en place, vous imaginez bien, là, on est loin de tout.
Oui, on est loin de tout. Quand on balaye du regard autour de la piste, on voit juste Tarfaya, quelques maisons, une mosquée, le fort, et puis autour de nous...
Maigres bosquets, et puis les dunes de sable.
Quelques tamaris par-ci par-là, et des dunes.
Voilà. Vous voyez, oula. Vous voyez, celui-là, là, ça a l'air beaucoup plus chaud, là. Il n'est pas stabilisé, là.
Ouais, il n'est pas stabilisé du tout.
Voilà, vous voyez que c'est pas une... C'est pas toujours facile. Oh là, ça y remet les gaz. Ouais, il n'était pas stable, il remet les gaz. Il aurait dû les remettre. Voilà, Là, vous venez de voir l'illustration que ça ne se pose pas tout seul à cet endroit, parce que vous avez vu des antennes là, qui sont quasiment dans l'axe de piste, et donc on est obligé de s'aligner au dernier moment pour éviter les antennes, quoi. Et avec une piste qui est, pour la plupart de nos avions, très courte.
Oui, la difficulté, c'est que c'est une piste tout en sable.
Voilà, très courte. C'est vraiment c'est un challenge pour la plupart d'entre nous. Il y a la chaleur aussi, il y a un tas de facteurs. Et c'est aussi pour ça que c'est une piste mythique, et d'autant plus que on pense aussi à ceux qui faisaient ça il y a un siècle, avec des engins qui n'avaient rien à voir avec les nôtres, donc ça devait être assez rock'n'roll, je pense. Alors, ils ne devaient pas avoir les antennes, hein, le seul...
Et puis, arrivé à Cap Juby, Tarfaya, aujourd'hui, c'est aussi un sacré voyage... Au-dessus de l'Atlas, désert, au-dessus d'Agadir.
On n'arrêtait pas de mitrailler. Le trait de côte, là, ce qu'on appelle, c'est-à-dire suivre la côte, là, c'est avec ce désert derrière. Mais après, on arrive très très vite dans des zones vraiment totalement désertiques. Et ce contraste entre la terre et le désert et la mer, c'est vraiment c'est superbe, c'est magnifique. Et puis on est très content parce que pour nous, c'est un peu toucher le Graal, là, hein, de venir se poser à Tarfaya. Donc on vit quelque chose de vraiment super. Je ne sais pas, c'est comme un montagnard qui gravit le Mont Blanc ou ce type de qu'on peut prendre comme exemple. Chacun dans sa discipline, on a un petit peu des rêves et puis qui se placent dans une histoire de notre pratique, de notre sport, de notre passion. Donc c'est des endroits, quand on est aviateur, c'est des endroits où on est content d'être allé une fois dans sa vie, quoi.
Le rêve de l'aéropostal, ça peut se résumer en relier les hommes. Et en fait, c'était ce que voulait faire Saint-Exupéry, ce qu'il a fait. Effectivement, ça permet de rencontrer en quelques heures, de sortir d'une culture, sortir d'un contexte et se retrouver en quelques heures immergé dans un autre cadre, dans une autre culture. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant.
Est-ce qu'on peut dire que l'aéropostale, c'est un petit peu l'essence du voyage ?
Ah ben, c'est le voyage à l'état pur. Bien sûr, il avait un but de commerce derrière. Mais c'était essentiellement du voyage, surtout pour les pionniers des fricheurs, c'était un sacré voyage quand même. À chaque fois qu'on est sur cette ligne, immanquablement, vous y pensez, vous vous rappelez. Et je me souviens avoir fait un vol en patrouille avec un collègue, et sur la fréquence, puisque là, sur ces fréquences en Afrique saharienne, il n'y a pas trop de monde, et on se lisait des passages du Petit Prince au-dessus du Sahara, au coucher du soleil.
C'est une belle image.
Oui, et puis ça fait de très très bons souvenirs. Et en fait, c'est regrettable que le contexte aujourd'hui nous amène à être frileux pour nous déplacer et méfiants. Mais l'aéropostale, enfin, la ligne de manière générale, avait contribué à ouvrir un petit peu toutes ces portes, à ouvrir les cœurs des hommes. Et bon, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que le contexte politico-économique fait que c'est un petit peu différent. Mais ce que je retiens surtout de l'aéropostale, c'est ça. Cet échange humain, cet échange de paysages, de cultures. Ça me permet de découvrir d'autres cultures que je connaissais de manière livresque. Mais les vivre sur le terrain, c'est encore autre chose.
Aller voir toujours plus loin, c'est une devise attribuée à l'aéropostale. Et ce terrain, cet échange de paysages dont vient de parler Gérard Hardy, historien de la ligne, nous attendent entre Tarfaya, Saint-Louis, Nouadhibou et Dakar, notre terminus. Y aura-t-il des pannes moteurs ou des apparitions d'étoiles filantes dans le désert ? La suite au prochain épisode. Ce reportage a été concocté par Raphaël Constant, Laure Allary et Céline Develay-Mazurel. Merci à Vladimir Cagnolari pour sa lecture de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci à Jérémy Besset et au labo RFI pour son expertise binaurale. À demain.
Retrouvez Si loin, si proche quand vous le souhaitez en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.